Chapitre 6 Un autre monde respire déjà. Il est une phrase de Gandhi dont je ne me lasse pas. Un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, une forêt qui germe ne s'entend pas. Ce demi-silence prometteur, j'aimerais le rendre audible. Partout autour de nous, un monde germe. Mais l'attention qu'il faudrait lui porter est parasitée par le fracas du vieux monde qui s'écroule par pans entiers. Ce bruit d'arbres morts qui s'amoncellent en chablis nous empêche de tendre l'oreille vers la silencieuse germination. Évoquant ce prochain monde qui affleure, Arundhati Roy, la romancière et militante altermondialiste indienne, disait « Quand tout est calme autour de moi, si je prête une oreille attentive, je l'entends déjà respirer. » Un autre monde? Je sais bien que la chanson n'est pas nouvelle. À toutes les époques et sous tous les cieux, les générations arrivant à l'âge adulte ont cru dur comme fer qu'elles inauguraient un nouveau monde. Le neuf, le nouveau, le changement, voilà bien une thématique qui court depuis des siècles dans la littérature. Comme une scansion convenue, elle rythme l'histoire des hommes. Sa régularité nous détourne à force de la prendre au sérieux. Cette histoire de nouveau monde ne serait-elle pas purement rhétorique? On publie depuis 20 ans beaucoup de livres qui expliquent que les choses nouvelles et les ruptures qui font les délices des commentateurs ne sont pas si nouvelles que cela. Ces prétendus changements ne seraient que la prolongation d'évolutions anciennes. Pensez donc, la mondialisation qui nous semble cataclysmique n'est rien de plus qu'une répétition, presque à l'identique, des mondialisations précédentes, à la Renaissance, au XIXe siècle, etc. Je ne suis pas convaincu par ce raisonnement. Je le crois même archi-faux. À mes yeux, les contre-discours du type « la mondialisation n'a rien d'inédit » n'ont pas ou plus le moindre sens. Cette fois, en effet, un changement radical est bel et bien à l'œuvre. Un de ces basculements, comme il s'en produit une ou deux fois par millénaire, et peut-être moins souvent encore. Un monde totalement autre respire, en effet, sous les ruines. Cette vérité est si aveuglante que nous avons du mal à la considérer, c'est-à-dire à croire ce que nous savons. Pour ma part, désireux d'aller au bout de cette intuition, j'ai délibérément changé de vie au milieu des années 80. Quittant le journalisme pour devenir éditeur et m'occuper de sciences humaines, je voulais essayer d'analyser l'une après l'autre les mutations bien réelles qui nous embarquent. La difficulté tenait au principe d'incertitude, formule librement inspirée d'un concept de la mécanique quantique, qui rend imprévisible dans son déploiement chacune de ces mutations. Il faut pourtant essayer de rendre les changements un peu mieux déchiffrables. J'ai fait ce que j'ai pu. Il est résulté 8 gros livres sur lesquels je ne reviendrai pas. De 1995 à 2012, ces 17 années de travail, de lecture et d'écriture m'ont convaincu d'une chose. La métamorphose que nous vivons est prodigieuse. Elle renvoie à leur frivolité nombre de bavardages contemporains sur la crise et redonne son vrai sens et sa nécessité à l'espérance. Les transmutations en cours sont porteuses, en effet, d'autant de menaces que de promesses. Leur devenir dépend par conséquent de notre discernement, puis de notre détermination. Nous sommes co-responsables de ce qu'elles enfanteront demain. Il nous appartient, à nous, citoyens, de faire le tri entre menaces et promesses. L'avenir, en somme, a besoin de nous. Je pense à une injonction adressée en 99 à Paris par l'écrivain et prix Nobel colombien Gabriel Garcia Marquez au public rassemblé pour un colloque de l'UNESCO. « N'attendez rien du XXIe siècle, s'écria-t-il, c'est le XXIe siècle qui attend tout de vous. » En disant cela, il nous appelait à l'espérance engagée. Dans les lignes qui précèdent, j'emploie le mot « germination » au singulier et je mets « mutation » au pluriel. C'est à dessein. Si nous avons tant de mal à réaliser l'ampleur de la métamorphose sociétale, c'est parce qu'elle prend plusieurs visages à la fois. Les changements sont à l'œuvre sur des terrains que nous avons coutume de juger distincts, voire éloignés. Dans les journaux, les revues, les livres que nous lisons, comme dans les émissions que nous regardons ou écoutons, ces changements sont catalogués dans des rubriques différentes. L'information à leur sujet est parcellisée, éclatée, segmentée, de telle sorte qu'aucune vue d'ensemble n'est permise. Or, une telle perspective nous serait plus nécessaire que jamais. Si les mutations sont plurielles, elles n'en font pas moins système. Elles s'articulent l'une à l'autre, s'influencent et se répondent. Elles interagissent en se remodelant mutuellement. L'alchimie en cours n'est pas si facile à démêler. Nous avons déjà du mal à identifier chacune de ces mutations. Nous peinons davantage à mettre au jour leur entrelacement. La pensée complexe, chère à Edgar Morin, avec ses rétroactions, ses émergences et ses désordres organisateurs, m'a été précieuse pour ce travail. De même que les idées d'auto-organisation ou d'autonomie empruntées à Henri Atlan et à Cornelius Castoriadis. Qu'il me suffise de désigner ici, le plus clairement possible, les mutations en question, celles qui se mêlent et invisiblement se conjuguent. J'en dénombre 5. Le chiffre est arbitraire, mais je le crois assez juste. Ces 5 mutations, à vrai dire, nous connaissons chacune d'entre elles. On nous en rebat chaque jour les oreilles, mais en négligeant de les mettre en perspective, ce qui permettrait de comprendre leur vraie signification. Je me contenterai ici de les lister brièvement. Leur juxtaposition parlera d'elle-même. La première mutation est géopolitique. Je propose de l'appeler le décentrement du monde. Celui-ci correspond à une remise en marche de l'histoire après l'effondrement du communisme. Au partage entre l'Est et l'Ouest, à cette guerre froide qui structurait la planète depuis 1917, succède un monde polycentré qui, de la Chine à l'Inde ou au Brésil, voit émerger de nouvelles puissances. Lorsqu'on évoque ce planisphère redessiné et cette redistribution de l'influence, on oublie d'ajouter qu'il marque la fermeture d'une parenthèse de 4 siècles. À partir du XVIIe siècle, après avoir rattrapé son retard sur les autres grandes civilisations, l'Europe avait conquis une quadruple hégémonie, militaire, économique, technologique, culturelle. Cette surpuissance avait fait de nous les conquérants du monde et les initiateurs de la modernité. Pendant 4 siècles, la marche de l'histoire fut gouvernée à partir d'un centre, l'Occident, qui dominait et civilisait, croyait-il, la périphérie, soit par les armes, soit par l'influence, le plus souvent en combinant les deux. Notre centralité et nos 4 hégémonies appartiennent dorénavant au passé. Nous ne sommes plus les uniques propriétaires ni les uniques promoteurs de la modernité. Est-ce si dramatique que cela? Je ne crois pas. Même si elles ont leur tradition propre, les sociétés émergentes demeurent, et pour longtemps, modelées et remodelées par notre influence. Les lamentations sur le déclin de l'Occident ou sur le choc des civilisations sont abusives et même dangereuses. Loin de s'éloigner les unes des autres, les diverses cultures humaines sont en marche vers un prodigieux rendez-vous historique. Ce rapprochement n'est pas sans risque. Il peut connaître des épisodes de violence. Il peut être ralenti par des retours en arrière, des crispations identitaires.